Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'économiste Charles Gave et c'est toujours un bonheur de vous recevoir, Charles Gave.
Merci beaucoup.
Et de converser avec vous. Alors, je vais commencer par simplement, on vous entend beaucoup dans les médias, la télévision en ce moment, pour estimer
non,
que...
Tous.
on vous entend. Pour estimer...
On vous entend sur certains médias.
Voilà. Les meilleurs, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Les meilleurs, cher Charles Gave.
Les meilleurs, enfin,
non,
c'est
mais
c'est
pour
les
dire, voilà, pour dire qu'en ce, eh ben, vous êtes plutôt inquiet. Vous dites que cette affaire de sanctions sur la Russie, eh bien, c'est nous qui prenons le coup le plus fort et qu'on le paye très très cher et que ça ne fait pas à notre avantage.
Non.
Et vous êtes inquiet donc sur notre avenir.
Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, je crois qu'il faut essayer de simplifier les choses au maximum. Bon, tout le monde sait. Nous avons, en France par exemple, sans doute le coût du travail le plus élevé au monde. Je crois que c'est généralement admis. Hein. Ensuite, notre industrie, qu'on le veuille ou non, est quand même assez fondée sur la voiture avec moteur thermique, hein, pas moteur électrique.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant. Et nous avions un avantage comparatif, en particulier de faire des moteurs thermiques extrêmement efficients et extrêmement peu polluants. Et on a décidé de passer au tout électrique, tout en sachant pertinemment qu'une voiture électrique du début à la fin de sa vie, quand il faut la recycler, une voiture électrique, elle a un bilan carbone qui est bien moins bon que les dernières évolutions de nos moteurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président de Peugeot. Donc, il doit savoir de quoi il parle. Donc, on force à un énorme changement de toute notre industrie à un moment où elle n'est pas très rentable. On la fait sortir d'un domaine où elle n'a aucun avantage où elle avait tous les avantages comparatifs pour la faire aller dans un endroit où elle n'a plus aucun avantage comparatif parce que ça fait 10 ans que les Chinois, les Japonais ou les Coréens font mieux que nous. Donc, deuxième inconvénient. Troisième inconvénient, on va se retrouver maintenant, on a sans doute, en tant qu'industrie, la région du monde, à cause de l'Europe et de nos réglementations propres à la France, où les industriels sont le plus réglementés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire un pas de côté sans demander la permission, donc on est réglementé, mais à un point qui dépasse l'entendement, les réglementations de Bruxelles, etc. Et finalement, grâce à ce qu'ils viennent de faire, on va avoir l'énergie la plus chère du monde. Puisque on avait une énergie qui était relativement bon marché, qu'on achetait avec des contrats à long terme à la Russie, qui n'ont plus lieu d'être, donc on va se retrouver avec une énergie qu'il faudra acheter sur le marché au comptant, c'est-à-dire à peu près 40% de plus que celui qu'on allait payer. Donc, on va se retrouver dans un monde pour l'industrie qui va être absolument dramatique. Et tout le monde me dit qu'il faut réindustrialiser. On va désindustrialiser comme on n'a jamais fait dans notre histoire, quoi. Ça va être un vrai bain de sang. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas un petit peu inquiet pour le sort de notre industrie française.
Alors ça, c'est notre industrie, c'est ce qui nous concerne. En ce qui concerne celui à qui l'on veut faire mal, c'est-à-dire Moscou, hein, c'est-à-dire les Russes, avez-vous remarqué que depuis quelques jours, après l'effondrement de la bourse de Moscou, il y a des remontées en forte hausse quand elle a réouvert? Comment expliquez-vous
écoutez,
cela? Ça vous surprend?
Pas du tout. La Russie est un pays qui a des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire qu'il vend plus à l'étranger qu'il n'achète à l'étranger. Il n'a pas de dette intérieure. Les équilibres budgétaires sont respectés. Il n'a pas de dette extérieure. Ils sont autosuffisants énergétiquement, ça va sans dire. Et maintenant, ils vont vendre leur énergie à des nouveaux clients, beaucoup plus cher qu'ils ne la vendaient avant. Parce que comme on est dans une crise énergétique considérable, sur laquelle j'ai beaucoup écrit depuis 2-3 ans, en disant on va rentrer dans une crise énergétique considérable, parce qu'on a cessé de faire des recherches dans le domaine des énergies fossiles depuis 10 ans, pour faire des moulins à vent et des miroirs magiques. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, y compris en Europe, 80% de la dépense énergétique est faite dans des énergies fossiles. Donc, ce qu'on a fait, ça a servi strictement à rien. Et comme l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, vous allez donc vous trouver la Russie qui maintenant va être le pays où l'énergie pour faire de l'industrie, pour faire n'importe quoi, toute activité économique, va être la moins chère au monde. Donc, où est-ce que vous préférez avoir vos actions, en Russie ou en France ?
Ce qu'il y a d'incroyable dans ce que vous nous expliquez, Charles Graves, vraiment, c'est incroyable, oui, parce que on est les gentils qui avons voulu donner un coup de bâton en méchant, en pensant l'assommer, et ils se retrouvent plus forts encore. Et nous, on est affaiblis.
Mais comme on est gouverné par des imbéciles qui pensent que... comment dire, c'est très curieux, mais De Gaulle, je crois, disait que gouverner, ça n'était pas choisir entre une bonne et une mauvaise décision, mais choisir entre deux mauvaises décisions. Et comme ces gens-là sont persuadés que eux, ils représentent le camp du bien et que les autres représentent le camp du mal, ils pensent que le camp du bien va l'emporter à tous les coups. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion historique. Il y a des tas de cas où le camp du mal l'emporte. Donc, ça me paraît complètement fou de penser que parce qu'on pense qu'on a raison, on va gagner automatiquement. Si j'ose dire, les Polonais en 1940, ils avaient raison, mais ils ont pris une branlée pas possible quand même.
Oui.
Et les Français aussi d'ailleurs.
Il y a un autre point, c'est celui de l'alimentation, la crise alimentaire prédite par Emmanuel Macron. On a parlé de l'industrie, on n'a pas parlé de cela aussi. Ça, et là, ce sont des vies humaines.
C'est simple, 40% des exportations mondiales de blé viennent de l'Ukraine ou de la Russie. Bon, alors, j'imagine que les récoltes en Ukraine ne vont pas être très faciles.
C'est le cas de le dire, oui.
Ni qu'ils vont pouvoir beaucoup exporter puisque leurs ports sont bloqués, occupés ou je ne sais rien. Et la Russie, bah, si vous voulez, si on continue à bien lui casser les pieds, elle va pas beaucoup exporter vers chez nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui veut dire que tous les pays qui sont des grands importateurs de blé, et je pense en particulier à toute l'Afrique du Nord et une grosse partie de l'Afrique noire, vont se retrouver avec des pénuries de blé monstrueuses, et toutes les grandes crises économiques depuis des siècles et des siècles sont toujours produites quand il y avait des pénuries de blé. La révolution de 1789 s'est passée parce qu'il y a eu trois récoltes de suite qui étaient abominables dans le domaine du blé. Donc tout ça est tout à fait étonnant, d'autant plus que ça faisait à peu près 8 ou 10 ans depuis le coup d'État de Maïdan, que le président russe disait aux gens, écoutez, on tire sur des Russes dans le Donbass, il y a une espèce de guerre civile larvée, j'aimerais bien qu'on règle le problème de l'Ukraine et qu'on s'y mette tous ensemble. On avait signé des accords en 2014, je crois, à Minsk, dans lequel on prévoyait que la France et l'Allemagne devaient assurer une meilleure gouvernance de l'Ukraine, avec l'Ukraine qui devenait un pays beaucoup plus fédéral et beaucoup moins centralisé. Il ne s'est rien passé, nous n'avons pas fait respecter ces accords, et on en est là où on en est, quoi. C'est pas comme si on n'avait pas été prévenu depuis 10 ans que les Russes commençaient à s'agacer.
Faut-il s'attendre à de nouveaux conflits, de nouvelles révolutions, notamment en Afrique et où dans le monde arabe?
Ben évidemment. Le printemps arabe avait commencé quand le prix du blé était beaucoup monté, oui. C'est tout à fait évident, il va y avoir des pénuries de nourriture. Et ce qu'il y a d'affreux dans tout ça, si vous voulez, c'est que quand vous prenez le budget des gens selon leur niveau de revenu, vous voyez que les pauvres, ceux qui ont le moins de ressources, dépensent à peu près un tiers de leurs revenus en nourriture, un tiers en énergie et un tiers en logement. Et depuis des années, les taux d'intérêt très bas font que le prix du logement ne cesse de monter, les loyers, etc. Et maintenant, on s'est débrouillé pour que et la bouffe et l'énergie montent. Mmh. Donc, si j'ose dire, on est en train de rentrer dans une période gilet jaune puissance 10, quoi.
J'aimerais, avec votre permission, vous corriger, Charles Gave, je n'ai pas vu plus économiste que vous. Vous dites un tiers, un tiers, un tiers. Moi, je dirais un quart en énergie, un quart en logement, un quart en alimentation et un quart en TV, en impôt. Vous avez oublié l'impôt.
Bien sûr, le payer. Mais ben évidemment, puisque si vous voulez, moi, quand j'embauche quelqu'un ici en France, sur les 100 que je lui paye, qui touche vraiment, il me coûte 200, un peu de choses près. Et sur les 100 qui touchent, il va lui-même payer les 25% d'impôts et il paiera ensuite 20% de TVA sur ce qu'il achète. Donc, le type, il va toucher 50, il me coûte 200. Et la vraie question, c'est mais où vont les 150 au milieu? Qui les touche et pourquoi? Où va le pognon?
Vous êtes attaché à notre pays, parce que si vous prenez position, si vous consacrez du temps, là, par exemple, quand vous me parlez, vous pourriez être au golf, là, ou faire autre chose, être sur un yacht, c'est que si vous le faites, c'est parce que vous aimez notre pays, vous engagez.
Alors, j'aime ce pays de façon passionnée.
Vous devez souffrir, vous devez être meurtri.
Je suis extraordinairement souffre. Mais il ne faut jamais perdre l'espérance, vous savez, c'est une vertu théologale, et il ne faut jamais perdre l'espérance, et je crois que ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens comment la réalité fonctionne. Et donc, en partant du principe qu'un citoyen bien informé est un citoyen qui votera comme il faut, qui fera ce qu'il faut. Je suis, par exemple, tout à fait partisan du référendum d'initiative populaire comme en Suisse pour rendre la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple. Mais la classe politique est ainsi faite que, qu'on le veuille ou non, la classe politique est devenue une espèce de classe au sens marxiste du terme qui a pris le pouvoir et qui l'exerce à son avantage en pillant la France. Et je sais pas, que j'arrive pas à trouver la façon de nous en débarrasser.
Alors est-ce que la bonne information est suffisante et est-ce que le sentimentalisme finalement ne l'emporte pas? Je vais prendre un exemple d'actualité. Quand vous croisez certaines personnes qui vous disent les salauds de le roi Merlin, je vais boycotter le roi Merlin parce qu'ils veulent pas quitter la Russie. Visiblement chez ces personnes, en toute sincérité, leur émotion l'emporte sur le raisonnement.
C'est la vérité. Et donc, je peux vous raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup servi dans ma vie. C'est que le plus grand économiste de tous les temps, c'était un Autrichien qui s'appelait Schumpeter. C'était un type absolument prodigieux. Et dans une biographie que j'ai lue de lui, il racontait qu'il était dans un café à Vienne en 1920. Et il rencontre Max Weber. Alors Max Weber, c'est le plus grand sociologue allemand qui a fait des absolument extraordinaire. Bon, et Schumpeter explique qu'avec les mesures qu'a prises la Russie à l'époque, justement en Ukraine, etc., il y allait avoir une famine épouvantable en Ukraine et qu'il y allait avoir des millions de morts. Et ça s'est produit comme ça un an ou deux après. Et Max Weber se met à crier en disant que c'est pas possible, qu'on peut pas laisser faire ça, mais qu'est-ce que lui raconte Schumpeter, que c'est affreux. Et Schumpeter est tellement, l'autre se met à crier tellement fort, donc, émotionnellement, que Schumpeter prend son manteau et sort avec le type qui était avec lui. Et l'autre lui demande, mais alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer? Et Schumpeter dit, je n'ai jamais vu un homme aussi bien élevé crier aussi fort dans un café. Je veux dire par là, si vous vous laissez aller au sentimentalisme, vous allez faire que des conneries toute votre vie. Vous devez raisonner, réfléchir, savoir ce qu'il faut faire, et pas tomber dans la moraline. Donc, ce que j'essaye de faire, moi, c'est d'expliquer aux gens ce qu'est la réalité. Et ensuite, c'est à eux de prendre leur décision. Il n'y a une morale qu'individuelle. La morale collective, ça n'existe pas. S'ils pensent qu'ils doivent boycotter Laurent Merlin, qu'ils le boycottent. Mais à ce moment-là, ça met 30 000 familles au chômage en Russie.
Et peut-être des dizaines ou des centaines en France, parce que...
Des dizaines en France, parce qu'on ne vendra plus nos produits là-bas.
Voilà, et puis derrière, il y a plein de professions, il y a...
Y compris celui qui ne va pas chez Leroy Merlin, d'ailleurs.
J'aimerais terminer cet entretien en revenant sur quelque chose qui est totalement oublié, la crise sanitaire, la période de confinement, le quoi qu'il en coûte. On a l'impression que cet argent est tombé du ciel, il est balayé... Est-ce qu'on n'est pas quand même en situation de très grande fragilité, notamment pour affronter cette guerre, voilà, les conséquences de cette guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais il y a les conséquences de cette guerre.
Bien sûr. Et vous avez parlé. Bien sûr que nous sommes dans une. Parce que il faut bien que les auditeurs comprennent quelque chose. C'est que vous pouvez avoir des hausses de prix, par exemple, s'il y a une mauvaise récolte. Eh bien, je sais pas, le prix du blé monte pendant un an dans un pays. Bon, c'est normal, ça. C'est pour, puisqu'il y a moins de produits, ça monte, voilà. Et puis, quand la récolte est meilleure l'année d'après, ben, les prix rebaissent. Donc, ça, c'est des hausses de prix. Mais si vous avez, dans l'intervalle, augmenté la masse monétaire, c'est-à-dire fait marcher la planche à billets, doublé la quantité de monnaie ou triplé la quantité de monnaie, à ce moment-là, ça se transforme en inflation où les prix vont continuer à monter de façon structurelle. Donc, on était dans une phase qui était inflationniste. La Banque centrale a fait n'importe quoi depuis 2 ans. Il y a une quantité de monnaie qui a doublé ou triplé. Et c'est à ce moment-là qu'arrive la guerre et que les prix se mettent à monter. Mais il faut pas s'imaginer qu'ils vont baisser derrière. Ils vont continuer à monter puisqu'ils ont augmenté la quantité de monnaie. Ça veut dire que maintenant, on rentre en guerre avec des prix qui vont passer au travers du toit et qui ne rebaisseront pas. Donc, c'est un mouvement de fond, c'est une lame de fond qui a commencé cette hausse des prix. Elle ne va pas s'arrêter comme ça, pas du tout, elle va continuer. Surtout que le prix de l'énergie va continuer à monter.
On peut vivre quelque chose comme 29, les classes moyennes ratiboisées.
Mais complètement.
Ou j'exagère un peu posant cette question.
Non, pas du tout. Il va y avoir une baisse. Vous savez, la Commission européenne a fait des études à long terme qu'elle a publiées, pas honte, hein, en disant que dans les 5 ans qui viennent, ou 7 ans, il va falloir faire baisser notre consommation d'énergie de 17%. Et vous avez une adéquation absolument parfaite, un taux de corrélation de 99,5 entre la quantité d'énergie et le PIB. Ça veut dire que la Commission européenne s'attend et prévoit et organise une baisse du niveau de vie de 17% sur les 10 ans qui viennent. Ils s'en cachent même pas.
Oui. C'est considérable, hein. C'est, voilà.
C'est inouï. C'est inouï. Vous vous rendez pas compte, mais la baisse du PIB
En clair, c'est comme si on retirait 400 euros par mois à quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois.
Ben, c'est ce qui va se passer.
Tellement les prix vont...
Et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils veulent, parce qu'il faut sauver Gaïa. Il faut sauver la Terre, il faut sauver je sais pas quoi. On est dans une nouvelle religion, si vous voulez, oui, où les grands prêtres de la religion trouvent que le peuple vit trop bien. Il serait bon de le ramener là où il doit être, c'est-à-dire juste au-dessus de la misère.
Ben oui, mais le peuple semble être d'accord.
Ben oui.
Ah oui, finalement.
Si le peuple accepte de se faire massacrer, eh bien la France disparaîtra.
Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, Charles Gave. C'était un bonheur de vous avoir encore une fois.
Merci mille
Toujours
fois.
Sans langue de bois, l'économiste Charles Gave était donc mon invité.
Merci beaucoup. Voilà.